VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'élection du président somalien par le Parlement, qui a déjà été maintes fois reportée, est finalement fixée au 8 février. Arzuma Compaoré.
Selon la commission électorale, le nouveau président de la Somalie doit être choisi par les 275 députés et 72 sénateurs tout nouvellement élus. L'élection du chef de l'État était initialement prévue en août, mais a été repoussée plusieurs fois. Les prétendants ont jusqu'au 29 janvier pour déposer leur candidature. Ils s'exprimeront du 2 au 5 février devant le Parlement, qui sera chargé d'élire le président le 8 février. Quelques 14 000 électeurs délégués sur les 12 millions de Somaliens ont voté entre octobre et décembre 2016 pour élire les députés. Parmi les candidats choisis à l'avance par consensus et représentant chaque clan ou sous-clan du pays. Le suffrage universel a été promis aux Somaliens, mais a été abandonné en 2015 en raison de querelles intestines combinées à l'insécurité chronique due aux nombreuses attaques des islamistes Shebab.
L'ancien premier ministre soudanais Sadek Al-Mahdi, dont le gouvernement avait été renversé en 1989 par l'actuel président Omar El-Béchir, est attendu ce jeudi à Khartoum après 30 mois d'exil, a annoncé à l'AFP un responsable de son parti d'opposition, Ouma. M. Mahdi avait quitté le Soudan en août 2014, quelques semaines après avoir été emprisonné pour avoir accusé une unité paramilitaire d'exaction contre des civils. Le parti Ouma a indiqué avoir pris toutes les mesures pour accueillir en début d'après-midi M. Mahdi à l'aéroport de Khartoum, puis dans la localité voisine d'Oum Darman, où il doit prononcer un discours devant ses partisans et des sympathisants de l'opposition. Le nouveau président gambien Adama Barrow est lui attendu dans son pays ce jeudi dans l'après-midi. Un retour donc attendu depuis sa prestation de serment il y a une semaine à Dakar et le départ en exil de Yahya Jammeh le 21 janvier. L'épilogue d'une crise à rebondissement de 6 semaines, accueillie au Sénégal depuis le 15 janvier à la demande de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui craignait pour lui, tant que M. Jammeh était en place, M. Barrow différait jusque-là son retour, invoquant des inquiétudes persistantes pour sa sécurité. L'envoyé spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambal, qui a informé le Conseil de sécurité sur la situation lors d'une session à huis clos, va accompagner ce soir M. Barrow de Dakar à Banjul, a-t-on indiqué à New York. En Côte d'Ivoire, appel sans équivoque du gouvernement aux fonctionnaires qui sont en grève depuis le 9 janvier. Il leur ordonne de mettre fin à leur mouvement, menaçant de le déclarer illégal et de prendre des mesures appropriées. Les pourparlers hier entre les syndicats et un comité de dialogue social de la fonction publique étaient considérés comme ceux de la dernière chance. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certaines primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012, dont les premiers effets se font sentir chez les retraités en 2016.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La justice kényane, quant à elle, a donné 5 jours aux médecins et infirmiers pour mettre un terme à leur mouvement de grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis plus de 50 jours. La grève qui a démarré le 5 décembre dans les hôpitaux publics a de lourdes conséquences pour les malades, dont certains sont dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population. Le 12 janvier, un tribunal kényan a condamné 7 représentants syndicaux à 1 mois de prison avec sursis, les sommant de mettre un terme à la grève. Le juge Hélène Wassiloua avait donné 2 semaines aux médecins et leurs représentants pour reprendre le travail, faute de quoi les 7 accusés seraient arrêtés et emmenés en prison. Mais alors que cet ultimatum a expiré hier, la juge a accordé 5 jours supplémentaires pour cesser le mouvement de contestation. L'armée nationale libyenne, loyale au maréchal Khalifa Haftar, a annoncé avoir repris mercredi l'un des derniers bastions des djihadistes près de Benghazi, dans l'est de la Libye, où un attentat a fait 6 blessés dans la soirée. Mohamed Ad Azoumi a précisé que ce qui reste des groupes terroristes a fui vers les immeubles 12, un quartier résidentiel d'un kilomètre carré entre Koufouda et Kawasha, un ancien fief d'Ansar al-Sharia, groupe proche d'Al-Qaïda et classé organisation terroriste par les États-Unis. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé a désigné hier les trois candidats qui tenteront au mois de mai d'obtenir le poste de directeur général de cette puissante agence de l'ONU.
Réunis à Genève, les 34 membres du conseil exécutif de l'OMS ont retenu le docteur David Nabarro du Royaume-Uni, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus d'Éthiopie et le docteur Sania Nishtar du Pakistan. Le Britannique David Nabarro fait figure de favori. Monsieur Nabarro, 67 ans, diplômé de médecine, exerce depuis 1999 des fonctions de responsabilité à l'OMS. L'ex-ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, 51 ans, est soutenu par l'Union africaine. Chercheur renommé sur le paludisme, cet ancien ministre de la Santé veut devenir le premier Africain à la tête de l'OMS. Seule femme sur la liste, la cardiologue pakistanaise Sania Nishtar, 53 ans. Elle travaille depuis 2014 au sein de l'OMS. Le choix du futur patron de la santé mondiale sera décidé par les 194 pays membres de l'ONU en mai. Il prendra ses fonctions le 1er juillet pour remplacer l'actuelle patronne de l'OMS, le docteur Margaret Chan, qui a enchaîné deux mandats de 5 ans depuis 2006.
Merci Claire Mourin-Jibou. Les rebelles continuent de défendre le dernier carré qu'ils tiennent à Moka, ville portuaire du sud-ouest du Yémen, où ils sont encerclés par les forces loyalistes. Ont indiqué aujourd'hui des sources militaires hospitalières. Les rebelles houthis ont perdu 20 hommes et ont enregistré 27 blessés ces dernières 24 heures, tandis que les troupes pro-gouvernementales ont eu 7 morts et 20 blessés dans leur rang, selon un responsable hospitalier, rapporte l'AFP.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Gabon, Coupe d'Afrique des Nations, la grande finale du groupe D, Ghana-Égypte, a tourné hier à l'avantage des Pharaons qui l'ont emporté 1-0. L'attaquant de l'AS Roma, Mohamed Salah, unique buteur de cette rencontre sur la mauvaise pelouse de Port-Gentil. Thierry Kabondi nous fait le point de cette rencontre.
Les Pharaons d'Égypte entament le match du bon bout et concrétisent leur domination dès la 11e minute par Mohamed Salah sur un magistral coup franc à 20 mètres du but ghanéen. S'en suivra une série de ratés de part et d'autre, mais surtout la sortie sur blessure du capitaine des Black Stars du Ghana, Asamoah Gyan, touché à la cuisse droite. Son remplaçant, Jordan Ayew, l'un des fils d'Abedi Pelé, très en vue en seconde période avec Christian Atiou, va multiplier des assauts dans le camp égyptien sans parvenir à battre l'impérial El Hadary, 44 ans, doyen en âge de tous les joueurs de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est donc une équipe égyptienne plus solide collectivement, réaliste et plus expérimentée qui a remporté ce choc du groupe D face à des Ghanéens en difficulté.
Thierry Kabondi de Top Congo FM, notre partenaire. Avec cette rencontre, avec cette victoire, l'Égypte termine première du groupe et affrontera le Maroc en quart de finale. Le Ghana jouera contre la République démocratique du Congo dans l'autre quart de finale. À Oyem, le miracle n'a pas eu lieu pour les Aigles maliens tenus en échec par l'Ouganda 1-1. Retrouvons pour le résumé de ce match l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Dans le match des éliminés du groupe D, c'est l'Ouganda qui a ouvert le score à la 70e minute par Farouku Mia d'un puissant tir sur une passe de Denis Iguma. Trois minutes plus tard, Yves Bissouma égalisait pour les Aigles sur un coup franc magistralement tiré. A noter que la pelouse détrempée après une grosse pluie n'a pas facilité la tâche aux joueurs. Pour le coach des Maliens Alain Giresse, la prestation des Aigles à cette canne a un goût d'inachevé.
On a quand même tout au long de cette canne des difficultés à marquer des buts et à concrétiser les possibilités qu'on a. Ça, c'est lourd comme difficulté, c'est un handicap qui, dans une compétition comme ça, après, pénalise.
Le coach Milutin Sredojevic, lui, n'a pas tari d'éloges au sujet des Grues Ougandaises.
Nous avons abattu un travail extraordinaire. Après 39 ans, jouer contre deux anciens champions et perdre par un but et mener contre le Mali, nous pouvons maintenant nous mesurer aux meilleures équipes africaines.
Les Aigles comme les Grues ont atteint le terminus dans cette 31e Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Timothée Donangmaï, OIM, VOA Afrique.
Aucun match prévu jusqu'à samedi avant les deux premiers quarts de finale, Burkina, Tunisie et Sénégal-Cameroun. Jean-Roger Bion à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.